Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Patrick, Pierre, Mohamed, Mathieu et le point cuisson de 20h avec des plaques qui sont éteintes. Elles sont encore chaudes mais elles sont éteintes. Voilà, on fait des économies d'énergie et ce sera quand même bon et chaud.
Ce sera quand même bon et chaud parce qu'on a tout précuit juste avant 19h.
Exactement, c'est bien Rebecca, bravo. Donc c'est des girolles et c'est des aubergines.
Aubergines qu'on retrouve au restaurant avec des girolles, un jus de volaille et une huile de persil.
Merci Rebecca.
Avec plaisir.
C'était très efficace, à tout à l'heure. Tout de suite, une belle addition. Ce soir, trois auteurs, compositeurs, interprètes, quadra parmi les plus doués de leur génération qui à eux seuls cumulent 4 victoires de la musique, 2 disques d'or, 1 disque de platine et 1 disque de diamant. 3 chanteurs qu'on a enfermés 6 jours dans un studio en Provence pour voir ce que ça donne. Au final, le compte est bon, un trio éphémère et 7 excellentes chansons.
Au milieu de la furie, mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche. Feuille blanche. Je suis là, au milieu du monde, pour que la vie réponde. On a pris le temps. Et là, au milieu du monde, allongé les secondes, on a pris le temps.
Gaël Faye, Ben Mazuet et Grand Corps Malade ont pris le temps. Et ils ont pris le temps de venir nous voir ce soir sur le plateau de C'est à vous.
Bienvenue.
Salut Ben Mazuet, Fabien,
bonsoir.
Grand Corps Malade, Gaël Faye. Installez-vous, on est ravis de vous accueillir
bonsoir.
À l'occasion de la sortie de ce mini-album, cette EP, voilà, qui sera disponible demain et dont le titre annonce la couleur éphémère parce que vous n'avez pas du tout l'intention de vous transformer en boys band. C'est pas le projet.
Je crois qu'on a fait le tour de cette collaboration.
Vous n'avez plus rien à faire, vous avez tout donné.
Non, c'est vrai que bah voilà, depuis le début, on a dit que c'était un projet un petit peu à part, un petit peu parenthèse dans le rythme de nos vies et de nos carrières respectives. Donc voilà, on a décidé que ça ne durerait pas longtemps et que du coup, ça allait être très intense du coup.
C'est ça, c'était l'envie de prendre le temps. C'était d'ailleurs votre première discussion en arrivant dans ce studio en Provence. C'est que vous avez tous les trois du mal à vous accorder des pauses de temps en temps, c'est ça Gaël?
C'est-à-dire qu'on est dans des métiers, on a des rétro-plannings, on voit deux ans près à peu près ce qu'on va faire. Et c'est vrai que quand Fabien a envoyé ce texto là sur un groupe, il a créé un groupe WhatsApp qui s'appelait Dinguerie. Il nous a proposé d'aller en vacances et de travailler un petit peu, de faire des chansons. Et si les chansons étaient bien, on essayait de faire.
Sinon, vous
chose,
auriez quoi. Tout jeté, quoi, si ça n'avait pas été bien.
Ouais, c'est vrai. Ah. C'est vrai qu'il y avait évidemment l'objectif de sortir quelque chose, mais le premier objectif, c'était vraiment de passer une semaine ensemble, quoi.
Vous le dites dans ce premier titre-là, prendre le temps. Faut battre le fer tant qu'il est chaud. L'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait jusqu'à étouffer. C'est le sentiment que parfois vous avez, Ben?
Disons qu'il faut voir qu'on arrive dans une certaine temporalité. Tous les trois, on a sorti des albums à peu près au même moment. On est parti en tournée au même moment. Une tournée qui a été un petit peu freinée par la pandémie. Et donc après, on a une densité de spectacles qui était très grande. Et donc, on arrivait tous les trois dans cette même temporalité, qui était une temporalité effectivement assez intensive. Mais je dis jusqu'à étouffer parce que c'était beaucoup, mais j'ai eu tout à fait conscience du fait que c'était quand même très agréable.
Voilà. Bien sûr. Ouais.
Et puis,
vous n'avez jamais été aussi heureux que là avec ces deux gugus là
C'est ce que j'avais cette réflexion par rapport. En fait, on est aussi parents tous les trois. On a aussi donc des obligations de parents. On a donc pas mal d'obligations en vérité. Et donc le fait de passer une semaine sans obligation
sans
du
contrainte.
Tout. C'est vrai que j'ai trouvé la semaine géniale.
Un bon entendeur, salut. Voilà.
C'est vrai qu'il y avait un peu de ça.
Ça donne 7 titres magnifiques qui vous ressemblent. C'est intelligent, c'est élégant, il y a de la poésie, ça fait réfléchir. Et puis il y a un énorme, bon, gros délire autour de Benjamin Biolay. On y revient, mais tout de suite, c'est l'heure des infos express. Parce que nous non plus, il n'y a pas de répit. On y va, on fonce. Les infos express de C'est à vous. Patrick.
Oui, une histoire de loto. J'aime bien les histoires de gagnants du loto. Là, c'est l'histoire d'un type du Nord Finistère qui, tous les vendredis, va à son loto presse de supermarché pour jouer toujours les mêmes chiffres. Les 5 mêmes numéros, plus le numéro chance, ça fait 6. Il joue toujours sa date de naissance et celle de sa femme. Il y a 15 jours, l'autre vendredi, il avait oublié ses lunettes à la maison. Et donc, en cochant, il se trompe de case. Il coche à côté. Résultat, 193 666
Il a bien fait.
Donc voilà,
sentir.
Moralité, vive les bigleux, vive le hasard, et ne cochez pas toujours exactement les mêmes numéros. Vous voyez, un petit écart par rapport à la normale, ça peut vous faire 200 000 balles, c'est vrai.
Carrément, on dit 200 000 balles, tellement oui. On est détendu.
Ah oui,
vous jouez au loto? Non. Bon, voilà. Mathieu, un autre genre de jeu?
Moi, je vais vous parler de la fête de la moisson à Taïwan. Un peu de culture, si vous voulez. Je sais que vous avez peur parce que ce n'est pas le sujet que je vous ai vendu, Babette, mais j'y viens. C'est une fête annuelle.
Ah oui, moi, je vais parler d'un striptease en EHPAD.
C'est une fête annuelle au 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. Bref, c'était récemment à Taïwan. Et le foyer des vétérans de Tao Yuan, c'est une maison de retraite pour anciens militaires, ce foyer a eu une drôle d'idée pour ses pensionnaires. Un drôle de spectacle qu'on n'imagine pas forcément dans un EHPAD. Une stripteaseuse, donc Babette. Effectivement, Émilie me faisait remarquer, c'est pas si grave, elle est masquée. Bon, faut savoir que là-bas, ça a provoqué une petite polémique. Faut dire que la pandémie avait causé l'annulation des deux précédentes éditions. Ça n'a pas plu à tout le monde. Je vous cite les excuses. La dame y est allée un peu fort, de manière un peu trop franche et enthousiaste, le dirigeant de cette EHPAD. Que ça fasse débat ou pas, figurez-vous que c'est déjà arrivé plusieurs fois, et notamment en 2019, dans le Var, au Jardin des Orchidées, où 98% des pensionnaires étaient des femmes à ce moment-là, et elles ont eu droit au Gentleman Chippendale venu de Marseille. Une résidente de 89 ans avait alors témoigné dans la presse, je la cite, « Si seulement il pouvait venir nous rendre visite tous les jours, il m'a fait sentir jeune à nouveau. »
Ben voilà. Donc à refaire.
À refaire, mais chacun fera comme il veut.
La pièce maîtresse du bloc-notes de C'est à vous, c'est l'œil de Pierre.
La Bibliothèque nationale de France, comme vous le savez tous les trois, la fameuse BNF, a deux lieux à Paris. Le plus récent, ce sont les trois tours du site François Mitterrand, inauguré en 1998 dans le 13e arrondissement, au bord de la Seine. Et puis, il y a le site historique, installé depuis plus de 300 ans entre la rue de Richelieu et la rue Vivienne, disons pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de Paris, entre l'Opéra et la rue de Rivoli. Il y a 300 ans, c'était la Bibliothèque du Roi. Vous savez que les choses ont un peu changé depuis, mais ce site historique, séculaire, va connaître un moment fort après-demain, samedi. Après 12 ans de travaux, le site Richelieu, consacré aux manuscrits, aux estampes, aux photographies, aux objets historiques, aux paroles de chansons historiques, là j'en rajoute, va rouvrir. Avec une meilleure circulation, beaucoup de lumière et de modernisation, sans trahir l'histoire, mais aussi ouverte à tous, restaurée et réaménagée, la fameuse salle ovale ne sera plus seulement réservée aux chercheurs.
Quand la salle ovale a été imaginée avant d'ouvrir, elle souhaitait s'ouvrir à tous les publics. Elle était complètement imprégnée du mouvement de la lecture publique, c'est-à-dire au moment de la Troisième République, cette intention de donner accès à tous à la lecture. Et donc on renoue en effet avec cette longue histoire. Il y a dans une salle de lecture de bibliothèque ce sentiment de pouvoir être à l'écart, de pouvoir s'isoler. On offre ce temps long, on offre la possibilité non pas d'abandonner le monde, non pas de ne plus s'y intéresser, mais de prendre le temps de s'en extraire pour mieux le comprendre. Et ça, je pense qu'on en a tous absolument besoin.
C'est une salle magnifique, elle va être ouverte à tous. Bien sûr, il faudra prendre sa place, mais ce sera gratuit. Pas tout est gratuit dans la Bibliothèque nationale, mais ça, oui. Dans cette salle ovale, il y a 20 000 ouvrages, dont 9 000 BD, une des plus grandes collections de France, après le musée d'Angoulême. Et ce lieu splendide laissera des souvenirs formateurs et inoubliables pour les plus jeunes qui viendront pour la première fois chercher et travailler sous cette voûte. Dans les autres salles qui ont été réaménagées, comme la galerie Mazarin, la BNF donne à voir ses collections historiques, émouvantes et inestimables.
Nous étions presque obligés de présenter l'une des pièces majeures, c'est-à-dire la Bible de Gutenberg, le premier livre imprimé dans le monde occidental, en 1455 à Mayence. Donc c'est vraiment non seulement important en tant que livre imprimé, mais aussi par la richesse de son décor. Nous possédons le manuscrit original autographe du Don Giovanni de Mozart, l'un des opéras les plus célèbres du monde. Il est merveilleusement conservé, très déchiffrable. Là, nous avons l'une des pièces
maîtresse du legs de Victor Hugo, le manuscrit de Notre-Dame de Paris. Notre grand poète a légué toute sa collection de manuscrits à la Bibliothèque nationale avec le souhait que cette bibliothèque devienne la bibliothèque des États-Unis d'Europe.
Dans ce musée de la Galerie Mazarin, entre autres, il y aura 900 objets et documents exposés, mais de véritables trésors qu'on ne s'attend pas à voir aujourd'hui à l'œil nu, si j'ose dire. En tout, le site Richelieu a dans ses cas 22 millions d'objets de l'Antiquité à nos jours. Gennaro Toscano, qu'on vient de voir et qui a fait faire la visite à Myrtille Serre et Camille Schmitt, leur a montré le trône du roi Dagobert qui a survécu à la Révolution. Oui, madame.
Cet objet n'a pas été détruit tout en étant un trône royal. On ne l'a pas détruit, c'est parce qu'en tant que document de l'histoire, ce trône, arrivé ici en 1791, au moment où la bibliothèque devient impériale sous Napoléon Ier, Napoléon Ier fait sortir le trône de la bibliothèque et il l'utilise en 1804 pour remettre les premières insignes de la Légion d'honneur.
Alors je pourrais vous dire que la BNF n'a pas la culotte de Dagobert, mais vous savez que je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Ouverture du nouveau site Richelieu après-demain samedi. La salle ovale est gratuite, je vous l'ai dit, le musée est payant. La réouverture pour les journées du patrimoine, ça n'est évidemment pas fortuit.
Voilà, et vous avez passionné nos trois invités ce soir, qui, je pense, iront au plus vite. Peut-être même pour y faire un nouvel album. On ne sait jamais.
Ça a l'air calme.
Exactement. C'est l'heure du vu, tout ce qu'il fallait pas rater hier à la télévision.
Sur un air glaçant, le russe Gazprom annonce les saisons dans son dernier clip. Des villes européennes prises par la neige et la Russie s'amuse de la flambée des prix de l'énergie. Et de ce qui va avec, pouvoir d'achat en berne et une inflation jamais vue depuis 25 ans.
Comment passerons-nous l'hiver ? Cet après-midi, la première ministre Elisabeth Borne fera des annonces.
Les quais qui brûlent !
Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour le gaz en janvier 2023. Et à 15% pour l'électricité en février.
C'est extraordinaire. Le temps qu'on regarde ça, on oublie tous les désagréments de la Terre.
Comment réduire la facture d'énergie qui plombe le pouvoir d'achat des Européens ? Ursula von der Leyen tape du poing sur la table. Les profits records des opérateurs d'énergie seront taxés et redistribués aux plus modestes.
En ce moment, il n'est pas juste de réaliser des bénéfices extraordinaires grâce à la guerre en Ukraine et sur le dos des consommateurs. Notre proposition lèvera plus de 140 milliards d'euros pour les États membres pour amortir le choc directement.
Une vingtaine d'heures, seul sur un brancard, à attendre d'être pris en charge dans une zone de soins à Strasbourg. Un patient de 81 ans a été retrouvé mort aux urgences des hôpitaux universitaires. Un drame qui démontre, selon les syndicats, l'état délétère des urgences.
Est-ce que vous pouvez dire salut Lilou, s'il vous plaît ?
C'est qui Lilou ?
C'est une copine à moi.
Il est arrangé tes plans.
Merci beaucoup.
Il y a ceux qui défendent le droit à la paresse. Il y a ceux qui défendent l'idée de mettre le RSA à 1000 euros. Eh bien, je défends, moi, l'idée que nous devons garantir, nous devons nous projeter dans une société qui garantisse à tous un vrai emploi.
À mesure que la couverture chômage se réduisait, on envoyait les gens vers le RSA. Donc vous aviez des gens simplement qui avaient perdu leur boulot, qui n'avaient pas entretenu leurs compétences ou dont on n'avait pas entretenu les compétences, qui se retrouvent là dans ce RSA. Et souvenez-vous ce qui s'est passé en Allemagne. Qu'est-ce qu'on a fait en Allemagne ? Les réformes Hartz, eh bien, ça consiste tout simplement, en effet, à réduire la couverture chômage, à mettre les gens dans l'assistance et à les pousser à prendre n'importe quel emploi.
Je trouve ça très choquant pour des gens qui, par exemple, travaillent toute la semaine, qui gagnent le SMIC. Et à côté de ça, il y a des gens qui font 10 enfants. Et on retombe dans l'histoire de la maison de l'horreur où le fils disait que ses parents faisaient des enfants pour toucher des allocations familiales. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que le travail gagne plus que de ne pas travailler.
48% des Français, donc près d'un Français sur deux, considèrent que la plupart des chômeurs ne cherchent pas vraiment à retrouver un emploi. Ils sont 38% à penser que les chômeurs sont des assistés. 39%, pardon.
Tu crois qu'ils vont accepter si on propose au papa, par exemple, un job déboueur et à la maman un job de caissière?
Mais qu'est-ce que vous en savez?
Jamais de la vie,
ils vont gagner moins d'argent.
Pas du tout, ils ont 300 euros par mois par personne. Arrêtez de dire n'importe quoi. Et moi, ça me choque quand j'entends Raymond et Géraldine dire les riches ont le droit de faire des enfants, les pauvres n'ont pas le droit de faire d'enfants. Mais c'est quoi? C'est le début.
Et puis l'information est révélée ce matin par nos confrères du Canard Enchaîné, le numéro 2 de la France Insoumise, Adrien Quatennens, soupçonné de violence conjugale. Sa femme a déposé une main courante, on ne connaît pas le détail des faits signalés, mais le parquet s'est saisi des faits.
Le cœur de Londres traversé par une procession émouvante et solennelle. Derrière la dépouille d'Elisabeth II, le roi Charles III et côte à côte les princes Harry et William, image d'une famille royale unie dans le deuil.
It's time that we had a debate, and we're not. The media is not allowing us to have a debate. They're whipping up a frenzy of mourning and sycophancy, and we need a moment to think about this in a time of economic crisis. Whether it's worth the money, and also whether it's a democratic thing for a modern nation to have.
Oh God, I hate this. Nobody's going everywhere. Is anybody got trouble? Where is that?
Et on va revoir le moment où Charles III pète carrément les plombs.
J'ai peur d'être un peu à contre-courant en parlant de ce monsieur qui est le cinéaste qu'il était. Bon, moi c'était pas ma tasse de thé, mais c'est surtout l'homme qu'il était qui n'a pas été très, très bienveillant pour ma communauté.
Quand un siècle se dissout lentement dans le siècle suivant, quelques individus transforment les moyens de survie anciens en moyens nouveaux. Ce sont ces derniers que nous appelons art. La seule chose qui survive à une époque.
Qu'il ait ses idées, qu'il soit pro-palestinien, c'est très bien, et moi je suis pour, d'une certaine façon aussi, mais pas... Pas ce qu'il en a dit, pas dire qu'en réalité les Juifs de la Shoah s'étaient fait tuer exprès comme des moutons pour que 3 ans après on reconnaisse Israël.
La droite et l'extrême droite l'emportent en Suède. Il aura fallu 3 jours pour obtenir le résultat final des législatives de dimanche dernier. Pour la première fois, les conservateurs se sont alliés au parti nationaliste des démocrates de Suède, sorti grand vainqueur de ces élections avec plus de 20% des voix.
I'm here to talk about politics.
Oh no.
Oh non.
To talk about the election.
Putain, on déteste ces résultats.
We fucking hate it.
C'est des putains de racistes qui vont gagner.
C'était il y a 2 ans, mais c'est une soirée qu'ils n'ont pas oubliée. Celle du 12 février 2021, alors qu'ils étaient tous les trois en lice pour la victoire de la musique de l'album de l'année. Mais le prix est revenu à celui qui a tout raflé cette année-là, Benjamin Biolay.
Cher Président, est-ce que vous pouvez ouvrir l'enveloppe et nous dire qui est le lauréat de l'album de l'année? Alors, dans le micro.
Le Grand Prix revient à Benjamin Biolay.
Déjà auréolé quand même de la victoire de l'artiste masculin. Benjamin Biolay remporte donc également celle de l'album avec Grand Prix qui marque son retour.
Alors, on vous a vu en petite vignette là, voilà, tous les trois. Alors, voilà, attendant le verdict, vous avez été très fair-play ce soir-là. Mais en petit comité, enfermé dans votre studio en Provence, vous vous êtes mis dans la peau de très très mauvais perdants. Ça donne un bon gros délire, une chanson qui s'appelle « Qui a kidnappé Benjamin Biolay ?» un mini-polar. Où Benjamin Biolay finit dans le coffre d'une voiture. Mais tout ça commence par un vol de statuette. Et c'est vous qui avez volé sa victoire.
Ouais, c'est vrai que tout part de là, c'est un peu ma faute. C'est vrai qu'en fait, ce soir-là, je crois qu'on a été très fair-play et qu'on a quand même fait une belle fête derrière parce qu'on était quand même très fiers d'être nommés. On est quand même 3 potes depuis très longtemps. Et là, tous les trois nommés dans la même catégorie. On était très contents. Et en vrai, cette nuit-là, on a fait une fête. Mais là, en studio, on a réinventé cette nuit-là et elle ne se passe pas du tout de la même façon, quoi.
C'est-à-dire, racontez-nous en quelques secondes ce qui se passe. En gros, vous volez la statuette.
Je vole la statuette.
Vous les appelez en panique.
On est un peu en insomnie. Ouais. On échange WhatsApp. Donc, je les appelle pour dire, les gars, faut que je vous montre quelque chose.
Ouais, c'est ça. Et puis, on arrive donc chez lui. Et puis, il nous montre la statuette qu'il a volée. Et moi, je ne suis pas du tout dans le délire.
Moi, je trouve ça cool de la garder un peu pour la montrer à la famille, de faire une garde partagée.
Donc, on prend un verre un peu pour... On commence à boire des coups pour un peu se décider. Il y a Ben qui boit un peu trop et ouais. Puis après bon
bah oui Ben on vous entend dire bah ouais forcément il a gagné, il a appelé son album Grand Prix et quelle conclusion vous en tirez?
Moi je lui dis que le prochain album je vais l'appeler Gros Lot. Je suis sûr de gagner aussi et on s'embrouille un peu et puis après ça
se passe pas bien.
Mais oui, Gaël n'est pas si vertueux raconter. Finalement.
Ouais, je suis pas très vertueux dans l'histoire. Ouais.
Oui, Gaël Faye avec sa tête dans.
Il y a quand même un moment où c'est lui qui craque.
Franchement, ça donne un bon gros délire, comme quoi le seum, ça rend très créatif. Quoi.
Le seum rend créatif, c'est une belle conclusion.
Bon.
C'est nickel quand même, franchement. Enfin,
ouais, on n'est pas doué.
Fabien, vous avez une technique pour savoir qui va décrocher une victoire quelques secondes avant que l'annonce soit officielle. Benoît Pulvor nous avait raconté qu'il avait, lui, une technique au César pour savoir, avant tout le monde, s'il allait gagner le prix. On l'écoute et vous nous dites si vous avez à peu près tous les deux la même technique.
Les caméras se déplacent sur les rangées...
Des prétendants.
Voilà, des... Et donc, en fait, tu vois la caméra se déplacer bien avant qu'on commence à annoncer les choses. Égoïstement, je vois la caméra. J'étais deux sièges avant je vois sa caméra, cette caméra qui s'approche alors qu'il était en train de déballer les enveloppes. Un peu sûr de moi, je m'apprêtais déjà, j'étais là. Oh, j'enlève le... J'étais sûr. Je ne regarde pas que dans le Mamax, il y avait aussi cet horrible acteur dont je ne citerai plus jamais le nom. Et au moment où ils ont dit son nom, ça a duré, mais dans ma tête, c'était comme ça. Yeah. Alors mon regard a fait. Et j'ai vu la caméra me dépasser, me pousser du coude. Et j'ai su que c'était fini, je ne l'avais pas.
C'est exactement ça ou pas?
C'est une histoire de caméra, en effet. Je n'ai pas le droit de le dire, donc je vais vous le dire. En fait, évidemment, il y a des caméras fixes sur chacun. La preuve, on est tous en petite vignette. Mais il y a aussi un steadicammer. Le steadicammer, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a une caméra harnachée à la taille et qui se balade avec sa caméra.
Et lui, va voir les gagnants.
Lui, il va devoir suivre celui qui se lève. Et du coup, il ne faut pas suivre les caméras fixes, il faut suivre le steadicammer.
Et vous l'avez vu s'approcher de Benjamin Mignolet.
Il s'est arrêté un bon petit moment à côté de moi. Là, je disais, ouh, je regardais, parce qu'on est pas mal. Et au moment où il a commencé à ouvrir l'enveloppe, il est allé se mettre à côté de Biolay. Donc j'avais compris quelques secondes avant l'ouverture de l'enveloppe. Donc maintenant qu'on a dit ça, évidemment, ils vont changer tout ça. Ouais. Et donc on n'aura plus notre technique. Merci, Babette.
Vous avez tous les trois la quarantaine.
Ouais.
Ouais. C'est un thème qui revient pas mal dans vos textes. C'est une petite obsession ou pas, le temps qui passe?
Une obsession, je ne sais pas, mais en tout cas... Moi, ça m'intéresse beaucoup les grands virages de la vie. Et parfois, c'est facile de les borner à partir des âges. Donc, et puis là, sur le temps qui passe, on a surtout une chanson sur le temps qui s'arrête, parce que c'était l'idée de prendre un peu une pause. Donc il y a cette chanson qui parle du temps qui s'arrête. Et moi, les grands virages, ça m'intéresse pas mal, ouais, j'avoue.
Mais vous en avez pris des grands virages. Vous avez une autre vie, Gaël et Ben, avant de vous lancer dans la chanson. Vous étiez médecin.
Oui.
Et Gaël, vous étiez financier. Vous gardez quoi de ces vies-là?
Plein d'expériences, de rencontres, et surtout le sentiment que c'est un privilège de vivre de ce qu'on aime vraiment, parce que c'est vrai que c'était métier que j'avais choisi parce qu'il fallait trouver du travail, mais pas parce que ça me faisait vibrer.
L'avion, quand on dit à un médecin dans l'avion, vous levez la main encore ou pas?
Alors j'ai plus le droit, parce que je suis plus inscrit à l'ordre. Et tant mieux, parce que je pense que j'ai plus les compétences. Donc, ça crée vraiment un souci. Mais moi, j'en garde plein de souvenirs très forts. Je pense que je me suis forgé une pensée politique dans un hôpital, parce que c'est vraiment le fond de l'entonnoir social. Donc on rencontre vraiment toutes les sociétés, on les pénètre, ce qui est quand même hyper un vrai privilège, parce que ce n'est pas toujours simple d'accéder à des sociétés, surtout en tant que médecin, c'est-à-dire en tant que sage. Donc j'ai des très, 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 très bons souvenirs. C'était juste pas... ma passion, ça m'animait pas. Et quand je voyais les autres dont c'était la passion, je me suis dit, mais je veux faire comme eux, comme les médecins passionnés. Alors, moi, ma passion, c'était plus
la musique.
Ouais.
L'album est illustré par un carnet de bord de l'enregistrement par Frédéric Perrault et Charlotte Mau qui a fait les dessins, les illustrations. On a les coulisses de votre collaboration où on découvre ce débat important sur les machines, la vente séchante, pour ou contre. Hein, donc ça vous partage. Et puis des anecdotes où on découvre, alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout cela est vrai? Oui, que Fabien reproduit parfaitement le bruit d'une goutte d'eau.
Je vais être obligé de vous le faire. Quelle pression.
Oh,
c'est vrai,
impressionnant.
Merci.
Ah oui, c'est
Gaël sait faire claquer son index très fort en le secouant.
Bravo.
Moi, j'ai rien,
Ben s'est plié sa langue en trois et la faire tourner sur elle-même.
Ah, ouais, oui. C'est vrai, alors pas la faire tourner, mais la plier en trois, je crois que c'est le faire. Mais c'est tant pis, c'est pas très joli. Mais
c'est pas vrai.
Putain. Bah ouais, je pensais pas que je ferais ça à la télé un jour.
Alors, sinon, on a fait des chansons aussi. On n'a pas fait que
des
chansons.
Mais bon, quand même, c'est vrai, il y a d'autres compétences quand même.
Voir où il y a d'être. Bon, donc. Blague à part, excusez-moi, on a une vraie chance. Alors, évidemment, ce carnet de bord a été fait pour le public, mais pour nous aussi, c'est un vrai cadeau parce que. Nous, on ne se rappelle pas de tout, comment sont nées les chansons. Et il y avait donc Frédéric Perrault, qui était dans un coin, on l'appelait le Condé, le flic, parce qu'il était toujours dans un coin, il ne parlait pas et il notait tout. Et du coup, bah, grâce à lui, on se rappelle comment est née telle ou telle chanson. Et c'est un peu, voilà, un peu les coulisses de la semaine.
Et il y a la naissance d'une chanson que vous retenez en particulier? Bon, il y a la première conversation qu'a donné le single Prendre le temps.
On a pris le temps.
On a pris le temps, pardon. Il y a une autre, un autre début de chanson dont vous vous souvenez moment.
Moi, j'ai bien aimé le début de la chanson « Besoin de rien », parce qu'on partait d'une discussion de se dire que nous, on a commencé dans des scènes a cappella, et donc on se disait, c'est vrai que sans électricité, on peut faire une chanson et que ça serait bien d'essayer ça. Et donc nous, on a commencé par faire un genre de cadavre exquis. Fabien écrivait quatre rimes, et puis je reprenais la dernière rime, et puis je... Et puis toi, tu...
Sur les vocalises que moi, je fais avant de monter sur scène, en fait. Avant de monter sur scène, moi, j'ai une tradition. Enfin, je fais des vocalises un peu particulières. Et donc, à force de les chanter, ils ont commencé à écrire dessus. Donc, c'était vraiment cette idée d'avoir besoin de rien pour commencer à créer un morceau. Puis, il monte. Et au fur et à mesure, il se garnit.
C'est bien très, très musical. C'est un peu le gospel de l'album. Mmh. Mais ça part de rien. Donc, c'était ça un peu l'idée. Ouais.
Besoin de rien, un peu de talent, mais si peu.
C'est fort à l'arrivée.
Et c'est très fort, ouais.
Ce qui vous lie tous les trois, c'est votre attachement aux chansons à texte. On le retrouve dans chacun de vos textes, dans chacun de vos titres. Et Jacques Brel parlait, lui, d'artisanat pour parler de l'écriture des chansons.
Dans la chanson, je crois que tout le monde est un artisan. Il y a des tas de revues spécialisées qui emploient des mots merveilleux, les poètes de la chanson, les grandes dames de la chanson. C'est pourri de grandes dames de la chanson, alors c'est incroyable. Puis tout ça n'existe pas, c'est un métier artisanal, ça n'est pas un art, c'est un métier artisanal, c'est un métier, on rabote des phrases, on fait des chansons. Je sais qu'il y a des tas de gens qui n'aiment pas quand on dit ça, mais c'est vrai, si quelqu'un était poète, il ne ferait sûrement pas de la chanson.
On est face ce soir à trois artisans, non? Vous êtes d'accord avec lui, Gaël?
D'une certaine façon, si l'idée d'artisan, c'est que finalement, chaque création est unique et moi j'aime bien l'idée de raboter parce que c'est vrai que pour moi l'écriture c'est de la réécriture permanente. On part d'une idée, on commence à écrire, moi je reviens beaucoup sur les textes. Donc après le débat sur l'art, le poète...
Parce que le poète aussi il peut être amené à raboter.
Oui, c'est ça.
Je crois que le poète est un sacré artisan aussi, je pense.
Ouais. Bah oui.
En tout cas j'aime bien cette idée d'artisan parce que c'est vrai qu'on est dans l'industrie de la musique avec des machines qui créent des CD et puis derrière une machine de promotion, etc. Mais tout ça démarre quand même par t'es tout seul à ton bureau à écrire un petit texte et à raboter des phrases en effet, quoi.
C'est amusant parce qu'on découvre dans l'EP encore, dans ce carnet de bord de l'enregistrement.
Le mini-album.
Oui, voilà, je vais me faire gronder. Dans l'album, on découvre votre façon de travailler. Gaël fait des sauts de puce d'un fauteuil à l'autre. Il griffonne, il rature, il tourne les pages. Fabien écrit des textes sur son téléphone. Une montagne ancrée et sereine, c'est vrai que ça vous définit bien. Et Ben fait des allers-retours incessants en murmurant des paroles inaudibles.
Ouais.
Comme un fou.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'était ça ce qui était super aussi sur cette semaine, c'était de voir un peu comment chacun travaillait. Et aussi, à chaque chanson, de tester les trucs qu'on n'avait jamais fait. Moi, j'avais vraiment envie de me dire j'ai fait plein de trucs que j'avais jamais fait avant. Et donc à chaque fois qu'il y a eu un processus d'écriture, c'était pas celui qu'on avait l'habitude d'utiliser quand on fait des chansons chacun de notre côté.
Et forcément, il en restera quelque chose dans c'est la façon dont ouais. vous allez travailler à l'avenir seul.
Gaël et moi, on n'avait jamais écrit dans l'urgence, par exemple. C'était la première fois que là, on en arrivait et qu'on devait écrire une chanson pour la journée. Ça, c'était très agréable, très relaxant. Oui, je réutiliserai ça, moi.
On va vous entendre tous les trois chanter pour la première fois à la télévision. Merci beaucoup de nous faire ce cadeau. Tailler la route, c'est le titre que vous avez choisi de nous interpréter. Le temps de vous installer, j'étais à ça, Zoé et Bruno.
J'étais à ça.
Bon alors, et ça en est où ta demande de prêt?
Pour le rendez-vous de la dernière chance avec le banquier, sur les conseils de ma mère, j'ai voulu inverser le rapport dominant-dominé.
D'accord.
C'est pas évident, hein, ce concept de friperie, resto, bar, bowling. Et pourquoi pas? Alors allez-y, je vous écoute. Parlez-moi de votre projet.
Mais vous, parlez-moi de votre projet pour mon projet. Pourquoi je laisserais votre banque me prêter de l'argent?
Waouh! Et ça a marché?
À ton avis? Pardon, c'était une blague.
Une blague? J'ai affaire à une rigolote. Bon, écoutez, je dois vous avouer que je ne suis pas du tout convaincu par votre projet. Vraiment, il faut faire plus simple. Il faut se séparer du bar et du bowling. Et votre concept de friperie, là. Changez-le en magasin de vêtements.
Il faut que je vous avoue quelque chose.
Quoi?
Si je fais tout ça, c'est pour ma petite fille. Elle est très malade. Je voudrais voir un tout petit peu de lumière dans ses yeux juste avant que ce soit trop tard.
Mais t'as un fils, pourquoi t'as dit que t'avais une fille?
Bah, je voulais pas me porter l'œil, gros malin.
C'est très émouvant ce que vous dites là. Mais j'ai lu votre dossier. Et c'est un garçon que vous avez, hein. C'est pas une fille.
Mon Dieu. C'est un fils. C'est un miracle.
Mais laisse tomber, ils sont trop forts pour nous.
Vous faites le bon choix. Franchement, de vous à moi, l'idée était ridicule. Tenez, signez ici, dans la case. On est bien dans les cases, vous verrez.
Mais vous savez quoi? J'en veux pas de vos cases. Hein? Elles sont trop petites pour moi, vos cases. Hein? J'en veux pas de votre fric, hein? Que vous gagnez, là, sur le dos de familles surendettées, hein? Eh oui. Et vos placements en bourse, là, sur des entreprises qui font travailler des esclaves à l'autre bout du monde. Oui, des esclaves à l'autre bout du monde. Regardez-moi ce que j'en fais de votre prêt. Voilà.
Viva la révolution.
Oui, mais bon, bof, il s'est mis à pleurer, du coup j'ai dû le consoler. Pardon, monsieur, excusez-moi, pleurez pas, on va le recoller. Je vais pas le signer, mais on va le recoller. C'est pas de votre faute, c'est pas votre banque, c'est pas vous. Ouais, je sais. J'étais à ça de changer de vie.
Gaël Faye, Fabien Grand Corps Malade et Ben Mazoué sont sur la scène de C'est à vous pour nous interpréter Tailler la route. Le trio formé pour la première fois à la télévision. Merci beaucoup. Merci à ceux qui vous accompagnent, Moziman et Guillaume Poncelet, qui ont composé et réalisé l'album. Vous taillez la route quand vous voulez.
Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air, entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire. Si rester c'est l'enfer, si partir c'est dans l'air, est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire? Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse? Elle est très bien ma vue, il est très bien mon quartier. Et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face? C'est ici que je suis moi-même et serein et entier. Et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante, et pourtant ça rentre pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente. Et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis et je le veux. Tailler un peu la route avant d'être vieux. Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs. Apprendre les lumières lunaires des cités étrangères. Voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs. Me fabriquer d'autres repères pour quand je ferme les paupières.
Tailler la route. Tailler la route.
On va, on va, on va.
Tailler la route.
On va, on va, on va.
Ils ne savent pas que je mords, que ma vie sans le soufre. Je passe en météore, comme on passera tous. Je suis fait de pierre granit, mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route. Ici j'ai plus d'attache, j'irai me planquer dans la soute. Si pour moi y'a plus la place, qu'ils aient gratté leur croûte. Cette bande de fils de lâches, obsédés par leur souche. Moi je suis amoureux du large. Je veux faire des milliers de miles, me languir de mille romans, m'arrimer au rythme lent, lire en moi la calme, de milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer au loin, la lumière de l'aube sur l'eau, en naviguant d'île en îlot, éviter les vagues et livrer combat à l'hydre du mal. J'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, ça tiffait de l'or, des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à la libella.
J'aime être seul, partir à la pêche, même si je pêche pas, partir à la fraîche. Moi j'ai la parole sèche, quand mon apparence triche, je fais pas très bien semblant. Quand mon apparence flanche, je prends pas souvent sur moi, je prends trop souvent sur ceux qui m'entourent et qui m'aiment et pour qui se ressourcent, eux, de mes tristes rengaines. Régulièrement je me retire, je pars où je peux dire rien si je veux. Régulièrement je me retire, désolé mais sans rire, je te dirai jamais. Viens si tu veux, ça veut dire que je t'aime, mais que je me connais. Passer la quarantaine, je vais pas beaucoup changer, je vais quitter là mes chaînes, là mes chaînes, là mes chaînes. Et quand je reviendrai, l'âme saine, l'âme saine, l'âme saine, c'est que j'aurai voyagé. Taille la roue.
Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre à la table de C'est à vous, où je suis très heureuse d'accueillir Ruben Östlund. Bonsoir.
Thank you so much.
Bonsoir. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous retrouver.
Ben oui, on est ravis de vous retrouver parce que vous étiez venu nous voir avec votre première Palme d'Or qui était dans un sac en plastique. Et vous êtes revenu nous voir pour votre deuxième Palme d'Or récoltée au mois de mai dernier à Cannes. Bravo. Pour cela, je vous présente trois grands artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, Fabien Grand-Corps-Malade, Gaël Faye et Ben Mazuet. Vous qui faites partie désormais du club très fermé des réalisateurs qui ont décroché deux fois cette palme, il y a quand même Ken Loach, Michael Haneke, les frères Dardenne, Emir Kusturica, Francis Ford Coppola et depuis mai dernier, Ruben Östlund. Pour le plaisir, les images de cette palme d'or.
Tout le jury, on a été extrêmement choqués par ce film. La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness. Ruben Östlund.
Thank you so much.
Merci beaucoup. En commençant ce film, nous n'avions qu'un but, vraiment, vraiment essayer de faire un film qui intéresse le public et qui le fasse réfléchir. Avec provocation, je suis très heureux que le jury ait reconnu la qualité de notre film. Comme la dernière fois avec le Square, je compte jusqu'à trois et nous allons applaudir toute cette équipe.
3, 2, 1.
On voit bien que vous êtes surpris, Ruben. Vous avez du mal à le croire que c'est pour vous.
Je dois vous dire que le fait déjà de gagner la Palme d'Or d'une fois, c'est déjà incroyable. Il faut un petit peu de chance, même si on a fait un excellent film. La chance y est pour quelque chose. Une deuxième fois, personne dans l'équipe n'y croyait. Enfin, c'était absolument incroyable.
Vincent Lindon rappelait que tout le jury avait été choqué par votre film. Nous, on a été enthousiasmés. On en parle dans un instant. Je vous présente Rebecca Beaufour, chef propriétaire du restaurant Dante rue de Paradis à Paris. Des aubergines ce soir pour nos invités.
C'est ça, des aubergines à la japonaise, marinées dans du mirin et de la sauce soja, servies avec des girolles fraîches et des mûres.
Merci beaucoup, Rebecca.
Merci, bonne soirée.
Triangle of Sadness, en anglais, sans filtre. En français, suit l'aventure de Yaya et Karl, un couple de mannequins et influenceurs en vacances sur une croisière de luxe. Un voyage qui va tourner à la catastrophe.
Who
looks paid for the tickets. Not bad, huh?
She's an influencer.
Not bad, not bad.
Yeah. So what do you do?
I sell shit.
The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes, sir, yes, ma'am.
No.
What? Everyone's equal.
Thomas, when you're able to hold the captain's dinner.
A toast to love.
I'm not a fan of fine dining. Darius, he doesn't look well.
The ship is going under. Russian capitalist and an American communist.
On a $250 million luxury yacht.
Stay focused.
We have to create a good group.
C'est la tradition dans l'émission. L'un d'entre nous expose les trois bonnes raisons, au moins, d'aimer un film ou un livre. Ce soir, Pierre nous donne trois bonnes raisons de vous aimer, Ruben.
Ma première raison, Ruben, c'est votre capacité assez rare de nos jours d'avoir décidé de changer de manière alors que vous êtes jeune, vous n'avez que 48 ans. Vous avez commencé avec des films d'auteur, un peu arty, comme on dit. Je pense à Incident bancaire ou Scène 6682 de ma vie. Et puis vous avez eu envie, à partir de Play, de vous confronter au public, de prendre à bras-le-corps des sujets de société et de ne pas hésiter à pousser loin l'analyse critique des postures. Mais en même temps, vous êtes l'un des très rares cinéastes auteurs qui fait des projections test de ses films qu'a envie de sentir le public. Cette façon d'être radicale, mais de vouloir entraîner le plus grand nombre, moi, me plaît beaucoup. La deuxième raison, c'est que pour moi, vous avez réalisé sans doute l'une des scènes de cinéma les plus fortes, les plus volontairement dérangeantes de toutes ces dernières années, avec Terry Notary imitant le singe dans The Square. Cette scène qui dure, qui crée le malaise dans la durée, ce que vous vouliez et qu'on n'oublie pas, la preuve, je vous en parle encore aujourd'hui. Et puis enfin, un réalisateur tellement critiqué par des gens de droite qui pensent qu'il est marxiste, est tellement critiqué par des gens de gauche qui pensent qu'il est cynique, je me dis qu'il doit être extrêmement dans le vrai, et ça, je l'aime.
Je pensais quand même, Pierre, qu'une des raisons d'aimer Ruben, ce serait sa dernière Palme d'Or cette année pour vos adieux à Cannes.
Oui, mais en même temps, si quelqu'un aime le cinéma et ne va pas voir la Palme d'Or, c'est-à-dire sans filtre, je crois qu'il peut aller se faire voir.
Ok. Thank you very much for that.
Merci beaucoup pour cette introduction. C'était très, très joli. Merci.
Sans filtre, c'est un film qui est bourré de qualité et qui est plein de paradoxes. Le premier paradoxe, c'est, on a pu s'en rendre compte au travers des quelques scènes de la bande-annonce, c'est que c'est un film qui fait rire, qui fait beaucoup rire. Vincent Lindon nous a raconté que votre film avait embarqué le jury tout entier à Cannes par un rire inextinguible, comme on dit, enfin un fou rire de 10 ou 15 minutes au milieu du film.
Plus que ça ?
Oui, plus d'une vingtaine de minutes.
Une vingtaine de minutes, ah, oui. Bon, en gros, on est à peu près dans le dîner du commandant de bord. Et en même temps, vous avez mis de la tristesse dans le titre, puisque c'est le titre de votre film en version originale, Triangle of Sadness, yeah. C'est-à-dire sadness, c'est la tristesse, mais qu'est-ce que c'est que le triangle, ce triangle-là en anglais?
The triangle of sadness is, ce triangle, it's a term
en fait,
in plastic surgery,
c'est un terme qu'on utilise en chirurgie plastique ou esthétique. C'est cette petite ride qui se trouve entre les sourcils. En suédois, on appelle ça les rides de l'inquiétude. Ça veut dire que c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes. Ça serait qu'avec le botox en quelques minutes. Donc, c'est un peu contradictoire.
Le, Le deuxième paradoxe, c'est que vous portez dans ce film un regard hyper critique sur le capitalisme et sur les ultra-riches. Et comme Pierre vient de le rappeler, la presse de gauche n'adhère pas complètement. Enfin, on l'a vu en France, notamment, hein, dans les critiques de la presse de gauche. Est-ce que votre intention est de porter un message politique, ou est-ce que votre démarche, elle est avant tout artistique, et de pousser un regard critique ou une situation absurde jusqu'au bout?
Je crois que ma démarche est un petit peu, politique, il y a un message politique. Mais j'étais un peu inspiré par les théories marxistes, mais quand même, ce qui m'a le plus influencé, en tout cas par rapport à Marx, c'est que c'est quand même le fondateur de la sociologie. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'examiner le comportement humain avec un peu de distance. Je ne voudrais pas pointer du doigt tel ou tel individu. Moi, j'espère plutôt voir la structure générale de l'humanité. Ce film essaie de voir comment l'humanité évolue du fait de la position sur l'échelle, dans l'échelle sociale, dans la hiérarchie sociale. Et avec cette démarche, ce que l'on fait, c'est que l'on applique un petit peu la théorie marxiste quand même dans l'analyse de la société. Donc quand vous dites que la presse de gauche n'aime pas trop le film, en fait, ça me plaît plutôt. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être trop facilement, disons, positionné à gauche ou à droite. En Suède, d'ailleurs, j'ai eu un peu le même problème. Et le problème de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle a oublié Marx, en quelque sorte.
Oui, et puis moi, j'ai vu un autre côté marxiste dans votre film, c'est l'influence non pas de Karl Marx, mais des Marx Brothers, parce qu'il y a du burlesque aussi dans un grand nombre de scènes de votre film. Et je reviens au dîner du commandant. Moi, j'ai pensé, avec cette façon de faire tanguer les scènes et les personnages, j'ai pensé à Chaplin et Buster Keaton. Je ne sais pas si ce sont des références qui vous conviennent.
Ah oui, non, mais c'est une belle référence, et je vous en remercie. Je voulais éviter de faire du film trop d'auteur. Je veux dire que ça m'ennuyait un petit peu à la fin. C'était un petit peu des pauses permanentes, alors que les thèmes sont importants. Et puis le cinéma européen des années 70-80, avec des réalisateurs tels que Buñuel ou Lina Wertmüller, ils étaient très divertissants, et en même temps ils parlaient de la société avec une démarche un petit peu intellectuelle. Donc ça m'a quand même un petit peu interpellé, mais je voulais quand même reculer par rapport à tout cela, en disant voilà, lorsqu'il y a des thèmes sérieux, disons que c'est pas parce qu'un film est une comédie qu'il ne parle pas de contenu sérieux en même temps. Et le cinéma américain, pour sa part, attire évidemment, fédère le public, intègre le public dans le film, en quelque sorte. Et je voulais tirer un peu le meilleur des deux mondes, européen et américain, et revenir un petit peu à l'époque de Buñuel et Lina Wertmüller.
Là, c'est une croisière de luxe qui vire à la catastrophe. L'idée de votre prochain film, c'est que ça vire à la catastrophe, mais dans un avion, cette fois-ci. Et pourquoi ça vire à la catastrophe ? Parce que c'est un vol de 15 heures où tout d'un coup, les écrans tombent en panne et les gens deviennent fous à cause de ça dans l'avion.
Exactement. Et le titre du film, c'est que le divertissement à bord ne fonctionne plus, les écrans sont éteints, et donc sur un long courrier, il n'y aura plus de télé, ou il n'y aura plus d'écran. Alors, au début, l'équipage annonce aux passagers que malheureusement, il n'y aura plus de film de divertissement à l'écran. Et alors, pour les indemniser, qu'est-ce que l'on fait ? On leur donne une bouteille d'eau et un petit sandwich au fromage. Alors là, les gens pètent un câble, ils disent non, on veut plus que ça, vous n'allez pas nous donner simplement un sandwich alors qu'on n'a pas d'écran vidéo. Alors, c'est un reflet de notre époque où on a tellement l'habitude de nous divertir à l'écran, justement, que lorsque l'on nous enlève cet écran, qu'est-ce qui se passe ? Que se passerait-il ? Alors, c'est une situation que je pousse à l'extrême.
D'ici là, il faut aller voir Sans fil, Triangle of Sadness, pour y rire, vraiment, pour y réfléchir, pour voir des comédiens absolument formidables. D'ailleurs, il y a une actrice extraordinaire qui s'appelle Charles B. Dean, qu'on découvre dans ce film, mais dont on a appris la disparition fin août dernier, alors que vous veniez lui donner son premier grand rôle au cinéma. Évidemment, c'est une nouvelle qui vous a effondré.
Ah oui, tout le monde a été choqué par sa disparition soudaine. Charles Bees, c'était quelqu'un qui avait un enthousiasme contagieux. Elle était vraiment présente, très présente sur le plateau avec les équipes techniques, pas simplement avec les acteurs. Alors maintenant, on fait la tournée du film en France, au Canada, aux États-Unis. Elle nous manquera beaucoup. Elle nous manquera beaucoup. Mais on a dédié justement les projections à sa mémoire pour rendre hommage également à sa famille, mais à tout son travail, parce que c'était une remarquable actrice. Elle avait un grand talent et c'est vraiment malheureux de ne pas pouvoir savoir dans quelle voie elle se serait dirigée.
Sans fil, Triangle of Sadness, c'est dans les salles le 28 septembre prochain. Merci, cher Ruben Östlund, d'être venu ce soir. Je rappelle qu'Éphémère est disponible dès demain, vendredi 16 septembre. Et puis, Gaëlle, je rappelle la réédition de cet album, L'ennui des après-midi sans fin. C'est le texte de la chanson illustrée pour les enfants. Je présente vos actualités avant de lancer les actualités de Bertrand Chameroy qui conclut l'émission comme tous les soirs. Ça veut dire ça.
Bonsoir à la une de ce 15 septembre. Ne me demandez pas pourquoi, mais là, tout de suite, j'ai très envie de jouer au juste prix avec Elisabeth Borne. Là, maintenant, tout de suite, allez, c'est parti. On se fait un C+, c'est moi, Madame Borne. En quelle année sommes-nous ?
Nous sommes en 1537.
C'est plus.
Nous sommes en 1721.
C'est plus.
Nous sommes en 2022.
Et c'est grand mieux. Vous remportez un panier garni et un canapé d'angle en cuir de vachette. Et tout de suite, on joue au fakir avec Gérald Darmanin. Oui, cette intro était totalement gratuite, mais ça détend tout le monde et ça fait du bien. On reste au sommet de l'État ce matin. Le nouveau boulanger de l'Élysée était l'invité de BFM. Et je sais pourquoi il a été désigné. C'est parce qu'il est le meilleur incarnant du « en même temps ».
Vous avez gagné la meilleure baguette de Paris, donc vous allez fournir l'Élysée.
Ça met beaucoup de pression, non ?
Bah oui. Mais en fait, non.
En même temps. Et puis, c'est une révolution au palais. La nouvelle table du Conseil des ministres, ils l'ont changée. Oui, une nouvelle table totalement en design, de laquelle il a été question lors de la troisième édition de la France Design Week, événement au cours duquel Emmanuel Macron a rodé son one-man show.
La table du Conseil des ministres, depuis toujours, était sur des tréteaux, avec une feutrine affreuse.
Mais quelle savoureuse, la blague de la feutrine, on en demande.
Les quatre étudiants lauréats ont été choisis, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en mars 2020.
En mars 2020, il fait feu de tout bois. Une nouvelle table de conseil des ministres qui a pu tester celui qui était l'invité de Public Sénat ce matin, le ministre de la Transition écologique, qui dit bonjour de manière très douce, afin que le réveil ne soit pas trop brutal.
Bonjour.
Bonjour. Je suis très heureux que vous m'ayez reçu. Christophe Béchu était donc l'invité de Public Sénat, ou plutôt comme on le surnomme dans le métier, Christophe Méchu.
Il aime le naturel et le confort modèle.
Méchu.
Il a vraiment son style.
C'est Christophe Méchu, mais en même temps, je vanne, mais en voyant Magnéto, je me rends compte que je suis à peu près coiffé comme lui. Christophe Méchu, qui n'était pas venu pour rien, il était là pour enfoncer les portes ouvertes.
2027, c'est dans tellement longtemps.
C'est pas faux, c'est pas mal. Tu peux mieux faire, Christophe Méchu.
Le dispositif national, il est national.
Alors là, on est sur une baie vitrée enfoncée. Sacré Christophe Méchu. Allez, il est l'heure de filer en Grande-Bretagne. Aïe, ça fait une semaine que la reine nous a quittés, mais elle est toujours très présente sur les chaînes infos qui commencent à en avoir marre de faire des efforts.
What time did you arrive last night? À quelle heure vous êtes arrivé la nuit dernière?
4:30 a.m.
Ok, donc 4h30 du matin, ça veut dire qu'elles ont attendu... quelle heure il est ici, je ne sais plus. Enfin bon, bref, à peu près 3h.
Ouais, bon, bref, flemme de calcul, ça fait une flemme qu'elles sont. Allez, on passe une semaine que je suis à Londres. Foutez-moi la paix. Et alors, juste qu'il faut penser que Charles était roi, mais non, on se trompait. C'est une diva. C'est Charles, c'est Maria Carré avec de grandes oreilles. Il a de ses exigences. Celle de Patrick, c'est rien à côté, hein, parce que... Ouais. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Patrick exige d'avoir un ossobuco et une choucroute de la mer avant l'émission tous les jours à 16h30 dans sa loge. Mais ça n'est rien à côté des exigences de Charles.
On lui repassait apparemment non seulement ses pyjamas, et en plus on lui repassait ses lacets. Il fallait que ce soit 2 cm de dentifrice qui soit étalé sur sa brosse à dents. La baignoire devait être remplie à moitié exactement, et une eau tiède. Il se faisait transporter à chaque déplacement sa lunette de toilette.
Oui, des exigences commentées sur BFM par Roselyne Bachelot, qui, on le sent, est revenue aux grosses têtes et n'est plus ministre de la Culture.
Et il emporte aussi son PQ.
Eh bien, son PQ, elle n'aurait pas dit, hein, au ministère de la Culture. Et oui, la réponse est oui, d'ailleurs, pour le PQ, avec une marque très précise. Direction Detroit, aux States, où se tient en ce moment même le salon de l'auto. Et à quoi voit-on que c'est aux États-Unis? Parce qu'ils sont dans la mesure.
Good afternoon, everyone!
Good afternoon, welcome to the magnificent Motor City, Detroit!
It's labor in the house!
Et lui aussi était présent. Joe Biden, qui a pris le contre-pied sonore de la cérémonie en s'adressant au public en ASMR, comme Christophe Méchu, mais voyant qu'il risquait d'endormir le public, il a poussé le potard en un mot.
Guess what? First year in office, we reduced the deficit by $350 billion.
Wow! Il ne faut pas être cardiaque avec lui. Joe Biden, qui a essayé toutes les autos qu'il a croisées sur son chemin, on se serait cru dans Turbo, sauf que Biden est un peu moins fringant que Dominique Chapat. Non, oui, vraiment, il est carbo. Faut pas qu'il prenne un volant, parce que derrière le volant, on dirait un mannequin de crash test. Et quand je dis qu'il a testé toutes les bagnoles, il a vraiment testé toutes les bagnoles. Il a même testé ce road truck bleu. Et il l'a tellement aimé qu'il est reparti du salon avec. C'est gratos, carbo. Bien sûr, et carbo. Sans transition, un mot de sport. Crampons. À demain. Non, bien sûr, on parle de foot puisque c'était jour de conf de presse pour Didier Deschamps. Conf au cours de laquelle il a été question des polémiques Pogba et Noël Le Graët. On sentait que Deschamps était un petit peu agacé. Il voulait parler uniquement de foot, mais ce moment est arrivé.
Vous avez sélectionné 23 joueurs.
Ah, on revient au football, merci.
Pour la Coupe du Monde, vous avez sélectionné 26. J'essaie.
Oui. Pardon, j'ai pas entendu.
Vous avez sélectionné 26 joueurs pour la Coupe du Monde.
J'ai la possibilité d'aller jusqu'à 26.
Est-ce que vous allez saisir cette possibilité?
Alors, je ne vais pas vous répondre.
Ok.
Voilà, donc même quand ça parlait de foot, il ne voulait pas. Et on referme ces actualités avec notre grand quiz. Qu'a imité Didier Deschamps tout au long de la conf? Si vous pensez qu'il imitait un avion à réaction qui fait un looping envoyé avion par SMS, si vous pensez qu'il imitait un chat qui ronronne envoyé petit chat, si vous pensez qu'il imitait Patrick Cohen pendant qu'il pose une question, vous envoyez Patoun, bien sûr, par SMS. À demain.
Bravo. Merci beaucoup Fabien, Gaël, merci. Ben, Éphémère, c'est un super album de 7 titres signé par 3 excellents auteurs, compositeurs, interprètes. Merci d'être venu pour la première fois sur le plateau, c'est à vous, chanter tous les 3. Ruben Östlund, merci beaucoup, à bientôt pour la 3e Palme d'Or, on vous attend. D'ici là, Sans Fil, Triangle of Sadness, c'est dans les salles le 28 septembre prochain. Si vous voulez bien, vous tournez vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs. À demain, 19h en direct, tout de suite, soirée science grand format avec Mathieu Vidard. Ciao.
Si rester, c'est l'enfer. Si partir, c'est dans l'air. Est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire? Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse? Elle est très bien, ma vue. Il est très bien, mon quartier. Et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face? C'est ici que je suis moi-même et serein et entier. Et pourtant, ça me tente. Et pourtant, ça me chante. Et pourtant, ça rentre pas dans mon schéma et c'est...